France Inter.
Moi, par exemple, entre mes 7 et 14 ans, quand il y avait la police à la cité, les grands nous envoyaient, nous, les petits, repérer combien ils étaient et leur emplacement, quel bâtiment ou quel étage. Depuis que je suis petit, je vois des règlements de compte, souvent causés par des désaccords entre deux amis, deux bandes d'amis ou deux cités. J'ai déjà vu un ami tirer sur un ennemi. Ça ne me choque plus, parce que cela se répète souvent et je me suis habitué. Mais je trouve ça triste de savoir que plusieurs de mes amis avec qui j'ai grandi peuvent mourir à tout moment.
Interclasse. Éric Valmire sur France Inter.
Connaissez-vous ce poème ? Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas. Il faut faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle ? Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice ? Impossible de violer cette femme pleine de vices. Le poète Bernie Bonvoisin et ses amis de Trust, totalement inconnus auprès des jeunes des quartiers, dépeignaient ce que l'on entend aujourd'hui dans le rap. La sensation de déclassement et d'oppression. Depuis 8 ans qu'Interclasse existe, les collégiens et lycéens dans les quartiers et aussi en grande ruralité n'ont cessé de renvoyer aux journalistes, techniciens de Radio France, aux attachés de production, productrices et producteurs de France Inter, cette image d'une discrimination sociale insupportable. Avec au final une forme de fatalisme. Pour avoir une chance de s'en sortir, être bon ne suffit pas. Pour le dernier Interclasse de la saison, c'est donc tout naturellement que l'on se tourne vers l'antisocial. Les préjugés sur les jeunes adolescents, quels qu'ils soient, les préjugés sur les quartiers prioritaires, des chroniques, des éditos qui méritent d'être entendus, et puis des sujets qu'ils ont voulu porter à l'antenne. Le phénomène des femmes SDF, SOS Méditerranée vue de l'intérieur, le marché de l'emploi quand tout semble fermé. Les ados, tous des feignants, c'est bien connu, mais les feignants s'offusquent. Rébellion au collège Jean Moulin de Villefranche-sur-Saône, avec à côté Tidjane Perron du CFJ Lyon.
Eh bien, avec deux élèves, on a décidé de savoir ce que les adultes pensaient des adolescents. Et donc, on est allé poser la question à différents adultes à Villefranche-sur-Saône.
J'ai deux ados à la maison, non, ils en font beaucoup moins qu'avant.
Le temps de nos parents, ils en avaient beaucoup plus qu'avant, que maintenant.
Non, ils sont plus feignants.
Moins de courage qu'avant, quand même, beaucoup moins, je pense. Ouais.
Vous voulez vraiment que je réponde à ça? Alors j'ai une adolescente à la maison qui m'aide très peu. Je suis toujours obligée de la menacer pour qu'elle m'aide, donc je trouve qu'elle n'est pas assez investie.
Ça dépend comment ils ont été élevés.
Et un peu d'autorité ne fait pas de mal, voilà.
Ils veulent pas, on dirait qu'ils veulent pas travailler, ouais.
Il faudrait peut-être aussi qu'ils lèvent le nez un peu de leurs écrans et qu'ils communiquent plus que des communications virtuelles. Il faut avoir envie de faire des choses et pas rester chez soi à attendre que ça arrive tout seul.
Eh bien, ça clash. Tidjane, j'imagine que, évidemment, en faisant ce micro-trottoir, ils se sont tus en écoutant les adultes, mais là, ils ont envie de réagir.
Exactement. Et il y a une des élèves, Océane, qui nous a préparé une petite réponse. Océane.
Bonjour, Océane.
Bonjour.
C'est un texte que tu as écrit pour réagir à cela, c'est ça?
Exactement.
On t'écoute?
Bon, j'ai comme l'envie de profiter de ma présence sur France Inter pour vous expliquer 2 ou 3 choses. Pour répondre à ceux qui pensent que nous, les adolescents, sommes des flemmardes, je vais vous raconter une de mes journées habituelles. Tous les matins, je me réveille à 7h et je pars en cours, sauf quelquefois où je dois laisser ma petite sœur chez une amie qui la garde et prendre le risque d'arriver en retard. Billet de retard, j'arrive à souffler. C'est le début de mes matinées. J'entends que les ados d'aujourd'hui se font assister. J'ai cours jusqu'à midi où nous avons une pause pour manger. C'est la course jusqu'à la maison. Mes parents ne m'ont rien préparé. Alors je sors quelque chose du congélateur, me débrouille pour manger le plus vite possible, même si mon repas n'est pas très sain. Je dois vite retourner au collège, parce que j'ai cours de 13h25 à 16h30. Et même, les mardis, mes cours finissent à 17h30. Le cours a fini en retard. J'arrive essoufflée, c'est que le milieu de ma journée. J'entends que les ados sont irresponsables. Hé là, Tidjane, c'est pas un peu la goutte de trop? Après le collège, je dois aller chercher ma petite sœur. Rentrer directement, faire les tâches ménagères. Je nettoie le salon, la cuisine, je balaye toutes les chambres pour ensuite faire de mes devoirs. Et enfin pouvoir me reposer. 19h, essoufflée. C'est la fin de ma journée. J'entends aussi que les ados sont susceptibles, qu'on ne peut rien leur dire. En réalité, ce n'est pas tellement les tâches qui me dérangent, Ce qui a du mal à passer, c'est la pression qu'on met sur moi. L'espoir aussi. Je dois faire le ménage tous les jours pour entendre un « Tu ne le fais pas bien » ou recevoir un « Tu ne fais pas d'efforts ». N'oublions pas, je dois aussi avoir des bonnes notes. C'est mon obligation. Même si j'ai très peu de temps pour étudier, pas le droit d'un merci. On me répond, un peu comme les parents de tout à l'heure, « On fait tout pour toi et toi, regarde. » Je pourrais passer des heures, mais je vais finir cette chronique. Alors, toujours flemmards les ados?
Ça te stresse, ce quotidien-là de tâches, de courir, de...
Oui, ça me stresse, je ne peux pas respirer et les journées sont très fatigantes.
Tu dors bien?
Ça dépend, mais tous les matins, j'arrive très mal à l'école. Même en cours, j'ai les larmes de sommeil qui viennent parce que je suis vraiment fatiguée. Moi, j'aimerais bien réussir dans ma réussite scolaire parce que c'est important pour le futur. Mais je ne supporte pas que mes parents, si j'ai une mauvaise note comme ça, et moi, j'ai étudié vraiment, ils commencent à me dire « T'as pas fait d'effort, tu ne sais pas le faire. » Quand j'étais toute la journée en train de faire les tâches, ils se reposent parce qu'ils sont fatigués, mais pas moi, et je dois faire même les tâches.
Et ils comprennent?
Non, ils ne comprennent pas.
Ils ne comprennent pas que faire toutes ces tâches ménagères, ça t'empêche de réviser ou de faire tes devoirs correctement? Tu leur en as parlé ou pas?
Oui, j'ai essayé d'en parler, mais chaque fois que je parle avec eux, ou ils commencent à rire, ou ils me disent « Non, mais sérieux, c'est moi qui mets à manger sur la table et toi, regarde. » Et leurs paroles me blessent beaucoup.
Tu as déjà une idée de ce que tu veux faire de ta vie, Océane?
J'aimerais faire un métier, mais mes parents ne sont pas très d'accord et je ne leur ai jamais en parlé parce qu'ils disent que ce n'est pas bien.
Et c'est quoi?
Actrice. Oui, j'aimerais tellement. Et pour ça, j'ai déjà, pour l'année prochaine, quelques études de ça. Mais j'ai tellement
C'est-à-dire
peur.
C'est-à-dire de comédie, d'art?
Oui, exactement.
Et t'as peur de la réaction de tes parents?
Oui.
Ils te voient dans quoi?
Mes parents. Ils veulent que je fasse des études scientifiques, oui, oui. Même si moi, je ne suis pas très intéressée et ce n'est pas mon fort de plus.
Bon, il faut que tu crois en toi.
Merci. C'est touchant de pouvoir faire ça. Pouvoir écrire un texte et raconter une journée, ça a été plutôt bien. Ce n'est pas une chose qui arrive tous les jours.
Merci beaucoup. Merci aussi à Tidjane.
Merci.
Bouleversante Océane, et les professeurs, conscients de cet état de fait, ont encouragé son orientation vers des options liées au métier de l'art. Trouver sa voie dans les formations, les études, les stages, un vrai labyrinthe, et définir son projet de vie, un métier un peu flou. Il faut donc prendre le bon chemin et surmonter les obstacles. Ça ressemble à un parcours de jeu vidéo, sauf que c'est la réalité, et c'est de leur vie dont il s'agit. On est à Strasbourg, au collège Hans Arp, dans la cité où habitent les élèves. Les collégiens ont mené l'enquête, accompagnés de Louise Forbin et Anthony Gilly, diplômés du CUEJ, l'école de journalisme de Strasbourg.
Vous voulez travailler dans quel secteur? Mais si vous êtes prêt et motivé, dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je ne veux pas qu'ils cherchent des gens.
Non, c'est vrai, c'est encore plus compliqué.
Aujourd'hui, on descend ensemble, on fait le tour du port. Je serais surpris qu'il n'y ait pas un restaurant ou un café qui ne cherche pas.
Je traverse la rue, je en trouve, je veux simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier.
Oui, ouais.
À peine arrivés dans la cour de récréation, les yeux des élèves fixent déjà notre micro. Coralie, Milou, Abdikani, Ilario et Fabrizio nous attendent. Ils sont en quatrième.
Du haut de nos 13 ans, on a déjà nos avis sur les problèmes qui touchent le quartier. On est concernés, mais aussi nos parents, nos amis. Un sujet revient souvent quand on réfléchit à notre avenir. Surtout quand on commence à faire des stages. Va-t-on trouver un travail? Sur Internet, on a vu que le chômage touche 11% des habitants du quartier. C'est au-dessus de la moyenne nationale et c'est 8%.
Entre deux ratures dans mon cahier de brouillon, une question se pose. C'est quoi le travail?
C'est une raison de vivre, parce qu'on se lève le matin pour dire « je vais travailler pour gagner ma vie ».
Le travail, il doit nous plaire, parce que si on fait un travail qui ne nous plaît pas, les matins, on va se dire « ouais, ça sert à rien de se lever si on n'aime pas le travail et tout ».
Pour vous, c'est quoi le travail en un seul mot?
La motivation.
Plaisir.
La détermination.
La souffrance.
Petit à petit, on parle des inégalités pour trouver un travail dans le quartier.
Des fois, il y en a qui veulent aider leur famille, parce que leur mère, leur père, ils travaillent pas beaucoup, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Et pour subvenir aux besoins de leurs frères, sœurs, qui ont besoin de vêtements, de jouets, tout ça, ils travaillent le plus vite possible, quitte à prendre, quitte à ne pas continuer la voie scolaire.
On a l'impression que notre quartier est abandonné. Beaucoup de commerces sont fermés, il n'y a plus de grands supermarchés, que des épiceries. Impossible pour nos parents de retirer de l'argent, les distributeurs automatiques ont disparu. Les perdants, c'est les habitants. Moins d'activité veut aussi dire moins d'emplois.
On se pose encore beaucoup de questions, les emplois, les inégalités. À 14 ans, c'est difficile de tout comprendre. On est allé chercher des réponses au centre socio-culturel du quartier.
Je m'appelle Sylvia Metzger, je suis référente insertion ici à l'espace boulot du CSC de l'ALSO.
C'est quoi l'espace boulot pour vous ?
C'est un lieu de proximité du coup au cœur du quartier qui accueille et accompagne tous les habitants de l'ALSO dans les démarches d'insertion sociale et professionnelle.
Pourquoi les jeunes sont plus au chômage ?
Déjà le fait qu'ils soient du coup sans expérience professionnelle, parce que bien évidemment un jeune quand il sort de l'école, il n'a pas encore travaillé, donc il manque de l'expérience. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui sortent de l'école sans diplôme, donc ça n'aide pas pour retrouver du travail.
Est-ce que dans le quartier, il y a du travail ?
Il y en a très peu, parce qu'on est un quartier où il y a très peu d'entreprises. Il y a une structure d'insertion qui est ElsoNet, et sinon il y a des petits auto-entrepreneurs, mais au niveau du marché de l'emploi, il y en a quand même très peu sur l'Elso.
Est-ce que si on est motivé, on peut y arriver ?
C'est la première chose qu'il faut avoir, c'est la motivation. Parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes qui n'ont pas forcément le meilleur des CV, mais s'ils persistent, s'ils se motivent et s'ils font plein de démarches, forcément ça va aboutir.
De ce sujet complexe ressort une interrogation. Quels métiers font rêver ces collégiens ?
Je veux faire coiffeuse.
Moi, plus tard, je voudrais être footballeur. C'est un rêve depuis tout petit.
Moi, je suis plutôt dans la voie médecine, anesthésiste et animateur.
Moi, j'aimerais beaucoup faire l'armée. C'est un métier qui me passionne. Mais après, je ne sais pas encore si j'y serais, quoi faire dedans.
Une vision, somme toute, assez précise de ce qu'ils veulent faire, contrairement aux idées reçues. Ce qui décourage, dans le fond, c'est la question de l'égalité des chances pour se réaliser. Et les mères de famille ne savent plus comment maintenir l'espoir. Un exemple à Amiens, au micro de Céline Autain, de France Bleu Picardie.
Juillet, août, ils ont quoi ici ? Rien. Toute l'année, il n'y a rien. Là, il y a les jobs d'été, eh ben, c'est déjà complet. Ils vont dire oui, on va faire ça, ça, ça pour les jeunes. Même les jeunes, ils n'ont même pas de travail. Il y en a qui cherchent du travail, ils n'en ont même pas. Il y a des chantiers ici, ils ne prennent même pas nos jeunes. On les laisse à galérer, à rien faire.
Avec le peu de moyens qu'on a, on leur donne une éducation. On essaye. Mais si de notre côté, on ne nous aide pas, ce n'est pas possible. On ne peut pas tout faire. On n'est pas des surhumains.
La conséquence éventuelle, probable, c'est de déraper, avec à deux pas de soi, sous ses yeux, des trafics qui rapportent de l'argent. Même s'ils se disent non impliqués directement par le sujet, les troisièmes du collège Pierre de Jeter à Saint-Denis ont voulu alerter, sensibiliser, car ils voient leurs copains céder à une tentation bien dangereuse.
Je veux quitter le quartier, une vue sur la mer, un cocktail et me faire masser. Ouais, on voulait juste être libre. Profiter de la vie, alors on sort la nuit. Car la nuit n'a pas de limite, tu sais, nos rêves n'ont pas de prix. Alors je prie, crois-moi, je ferai mon possible pour que mes rêves se réalisent. On va rider toute la night.
Comme le quotidien de certains d'entre nous nous a inspiré ce sujet, Ayoub a décidé de témoigner de son propre vécu.
Vivant dans une cité, j'ai vu presque tous mes amis tomber dans le trafic de drogue. Ils étaient souvent motivés par le manque d'argent. La plupart d'entre eux font partie de familles nombreuses. Ils ont des difficultés à étudier ou à avoir de l'argent de poche et ils sont tentés par l'argent, en apparence facile du trafic. L'influence des grands a également un impact sur les jeunes. Moi par exemple, entre mes 7 et 14 ans, quand il y avait la police à la cité, les grands nous envoyaient, nous, les petits, repérer combien ils étaient et leur emplacement, quel bâtiment ou quel étage. Depuis que je suis petit, je vois des règlements de compte, souvent causés par des désaccords entre deux amis, deux bandes d'amis ou deux cités. J'ai déjà vu un ami tirer sur un ennemi. Ça ne me choque plus, parce que cela se répète souvent et je me suis habitué. Mais je trouve ça triste de savoir que plusieurs de mes amis avec qui j'ai grandi peuvent mourir à tout moment.
Pour en apprendre davantage sur le sujet, nous sommes allés à la rencontre de Michel Kokorev, un sociologue spécialiste des banlieues et du trafic de drogue.
Il deal pour faire de l'argent et pour éventuellement avoir de quoi acheter les baskets de leurs rêves. D'un point de vue sociologique, on explique ça de la façon suivante, c'est qu'il y a un décalage entre les motivations et les ressources. Moi, je voudrais des baskets à 600 euros. Mes parents, ils me donnent 10 euros d'argent de poche par mois. Comment je fais ? Bon, d'une certaine manière, la revente, c'est la solution au problème. Ça a un inconvénient, c'est que ça explique pas pourquoi tout le monde le fait pas. Et donc, il faut ajouter d'autres facteurs, et notamment, il y a la coercition. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des petits, comme on les appelle, vers 12-13 ans, voilà, ils commencent à se déscolariser, ils se démarquent un peu, et ils peuvent être rapidement recrutés par les réseaux, soit de façon amiable, soit de façon plus coercitive, c'est-à-dire que maintenant tu vas vendre pour moi, je vais te donner ça, demain tu me rendras l'argent, et gare à toi s'il y a un problème.
L'environnement dans lequel les jeunes vivent et grandissent peut aussi exposer davantage les jeunes au trafic de drogue.
C'est quand même beaucoup plus facile de se mettre à dealer dans un endroit où ça deal que dans un endroit où ça deal pas. Le fait que d'autres l'ont fait dans mon quartier, dans ma cité, dans ma ville, ça socialise.
Michel Koukouref nous a appris que le deal représente aux yeux des jeunes un travail.
On observe que les gens concernés s'investissent dans ce qui relève d'un travail, faute d'avoir un travail à part entière ou du fait de rejeter le travail qu'on leur propose, c'est-à-dire aller comme leur père à l'usine ou faire des petits boulots mal payés.
Des offres d'emploi circulent aussi sur les réseaux sociaux tels que Telegram, Snapchat ou Instagram. Ces posts promettent de l'argent facile, entre 100 et 120 euros par jour pour les guetteurs et 200 pour les vendeurs.
Mais le piège se referme petit à petit sur eux. Une fois rentrés dans le deal, il est très difficile d'en sortir.
Entrer, c'est une chose, sortir en est une autre. On a une représentation comme ça un peu durcie où en fait c'est impossible de sortir. On n'en sort que les pieds devant. Bon. Alors c'est un peu plus compliqué. Souvent il y a une dette à payer ou il y a une interdiction de sortir comme c'était de l'esclavage quoi. Parfois, à un moment donné, en tout cas, on prenait des petits, on allait les taper dans les caves et ils avaient bien compris la leçon et le lendemain ils étaient sur le trottoir à vendre de l'héro. Et ils n'avaient pas intérêt à moufter. Ce mécanisme coercitif, contraignant d'entrée. On le retrouve aussi en sortie, avec une impossibilité de tourner la page. Quoi. Donc c'est pas aussi facile, et donc c'est là aussi où le jeune peut être orienté, conseillé par des éducateurs, par des professionnels, pour ne serait-ce que plus fréquenter son quartier.
Comme nous l'a dit le sociologue Michel Koukouref, le chemin du deal ne peut mener qu'en prison. Il ne faut pas croire aux illusions de l'argent entre guillemets facile, parce qu'il n'existe pas.
Un reportage avec Roman Pellin, journaliste de la Chance Média.
À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. Quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire. Toi, tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière. Chauffeur de camion, hôtesse de l'air.
boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les peurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Célébrons celles et ceux qui ne célèbrent pas. Santé, Stromae lève son verre à celles qui n'en ont pas de logement. Et les troisièmes du collège Georges Rouault ont voulu évoquer le sort de ces laissés pour compte, les femmes SDF.
Nous sommes en classe de troisième au collège Georges Rouault dans le 19e arrondissement de Paris et nous nous sommes intéressés au quotidien des femmes SDF au centre Georgette Agut dans le 18e arrondissement.
Sur place, nous sommes accueillis par la directrice du centre, un bâtiment très coloré et animé avec une cour. C'est le début de l'après-midi. Des enfants jouent avec leur maman.
J'ai deux enfants, une de 9 ans et une de 6 ans. Mon premier jour dans la rue, c'était horrible. On a appelé le 115 et ils ont dit qu'ils devaient me trouver un logement. Mais le même jour, on n'a pas trouvé de logement. On a dormi dans un McDo et ils nous ont orientés vers ici. Et après, on pouvait venir se reposer ici. Et après, repartir, appeler le 115. Et si le 115 ne trouve pas un endroit, on peut aller dormir au gymnase, s'enregistrer là-bas, passer la nuit. Ou bien il y a des particuliers qui acceptent de nous prendre aussi pour une nuit, quoi. Par exemple, ma patronne où je travaillais avant, elle me propose souvent d'aller dormir là-bas avec mes enfants. À l'école de mes enfants, il y a l'assistante sociale là-bas, il y a des parents d'élèves qui sont très sympas aussi, qui proposent, on peut passer des nuits chez eux, des trucs comme ça.
Célia, elle, est logée par le centre Georgette Agut depuis 4 ans. Arrivée en France en 2016, sans ressources et sans contact, elle a d'abord passé plusieurs mois sans domicile. Célia a tout fait pour éviter de dormir dans la rue.
Je suis algérienne. Je suis arrivée en France en 2016 avec en tête le rêve américain en France. Donc je voulais avoir une vie meilleure et offrir une nouvelle opportunité à mes petites sœurs et à ma famille. Sauf qu'en arrivant ici, j'ai été mal orientée et je me suis retrouvée à déambuler sur tout Paris. La nuit, j'ai eu peur, j'ai eu très peur. J'ai appelé la police plusieurs fois parce que j'étais en situation où j'avais des personnes qui voulaient m'agresser, des personnes qui me parlaient mal, du harcèlement de rue, etc. J'avais peur en constance, mais encore une fois, j'essayais de faire en sorte de ne pas le montrer.
Être une femme dans la rue, c'est être encore plus vulnérable. Célia nous explique les difficultés qu'elle a rencontrées.
Mon pire souvenir dans la rue, alors c'était un magicien. C'était un monsieur qui vient me parler en me disant « Bonsoir, j'espère que vous allez bien, vous passez une bonne soirée. » Donc il me dit « Moi, je fais des tours de magie, commence à faire des tours de magie. » Et à un moment donné, il me dit « Les métros vont fermer, tu vas dormir où ?»« J'ai un appartement, si tu veux venir chez moi, il n'y a pas de souci, je peux t'héberger, il n'y a aucun souci. » Alors je dis non, j'insiste, mais ne t'inquiète pas, j'ai absolument aucune arrière-pensée, c'est vraiment parce que j'apprécie ta compagnie, tu es une personne intelligente, intellectuelle, tu es ceci, cela, plein de compliments. Je suis cette personne-là et j'arrive donc avec lui et il me saute dessus. Et là, il y a une autre personne qui vient. Donc tout ça, c'était programmé. J'ai ouvert la porte, je me suis enfuie le plus vite possible. Donc ça, c'est l'une des expériences qui m'a le plus marquée, on va dire, à cette époque-là. J'ai compris qu'en fait, quand on me voit dans ma situation, en tant qu'une petite brebis blessée, la plupart des gens qui viennent pour me proposer de l'aide, ces gens-là, généralement, c'est des prédateurs.
Comme Célia, Elisabeth a connu des violences dans la rue. Elle porte aussi le souvenir douloureux de son histoire familiale et personnelle.
Je vivais avec mon conjoint parce que je suis mariée. Quand j'ai fait ma deuxième fille, j'ai pris des kilos. Du coup, mon conjoint, il passait son temps à me dire que je suis grosse et tout. Donc, du coup, j'arrivais plus à supporter et j'ai décidé de partir avec mes enfants. J'avais tout, hein. J'avais tout ce que je voulais. Mais je n'étais pas respectée et je ne pouvais pas aller voir ma famille. Voilà, ma sœur, elle est morte, je ne l'ai pas vue. Ça fait 9 ans, je ne l'ai pas vue et je ne la reverrai jamais parce qu'elle est décédée. Il me prenait comme sa boniche, c'est moi qui fais les repas, je ne travaille pas. Il ne voulait pas que je travaille, je ne sortais pas, j'étais prisonnière. Je ne regrette pas que je sois partie. C'est dur, la rue. C'est fatigant.
Contrairement aux idées reçues, Célia comme Elisabeth, sans domicile, ont toutes les deux un travail et des occupations. Célia, quand elle ne travaillait pas dans la restauration, tuait le temps en continuant de rêver.
Alors j'adore la poésie et j'écrivais beaucoup. Ça m'a beaucoup aidée et c'était mon divertissement préféré à l'époque.
Toutes les deux trouvent au centre Georgette Agut un réconfort et une forme de stabilité qui leur permet de continuer à espérer.
Mon plus grand souhait pour l'avenir, c'est d'avoir une situation stable. Avant, je voulais devenir milliardaire, je vous mens pas. Mais maintenant, je veux juste avoir un logement, de l'eau, de l'électricité et un logement à moi.
Mon plus grand souhait, c'est d'avoir un chez. Un chez, c'est d'avoir un chez moi, avec mes enfants, dans la stabilité et dans l'amour, dans l'harmonie.
Les femmes dans la rue, la préoccupation des collégiennes de Rouault dans le 19e arrondissement, avec le concours précieux toute la saison autour de ces reportages et préparations de Jeanne Maillère et Sarah Masson de France Inter.
Je sais pas comment tu fais. C'est vrai que c'est beau. J'aimerais nager comme toi aussi. Mais moi, j'y arrive pas. Quand je la regarde, c'est pas la mer que je vois. Non. C'est un mur immense prêt à m'écraser.
La solidarité au sens large est très présente dans le quotidien des collégiens et lycéens d'interclasse. À Marseille, alors que le siège d'SOS Méditerranée n'est pas très loin du lycée Victor Hugo, Interclasse a favorisé la rencontre de deux mondes qui ne se connaissent pas. Louise Guillaume est la directrice adjointe des opérations d'SOS Méditerranée.
Au départ d'SOS Méditerranée, parce que les gens se noyaient aux portes de l'Europe, c'était de faire une association européenne. Alors on a cherché, et en fait on s'est rendu compte que les statuts pour créer une association européenne, ça n'existait pas. Donc on s'est un peu creusé la tête et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner quand même cette résonance européenne et pas rester sur une association française, par exemple, alors que le problème, il est plus vaste que ça. Et on a décidé de créer des associations, plusieurs associations nationales. Donc une association en France et une association en Allemagne au départ. Et aujourd'hui, on a déjà 4 associations. Il y en a une autre en Italie et une en Suisse.
Moi, j'ai fait mon premier sauvetage, ça fait 2 mois. Quand on les recueille en mer, ils sont épuisés, terrorisés, à bout de force. Il y a des femmes enceintes, des enfants, des nourrissons. Ils sont en danger de mort. Ils sont là, ils tendent la main vers nous. Et nous, on va les secourir, c'est tout. Il n'y a pas d'autre choix, en fait.
Les équipes de SOS Méditerranée ont déjà sauvé plus de 25 000 personnes en détresse. Aidez-les à sauver des vies.
Quelles sont les missions de l'association ?
Secourir les personnes en péril en mer. On a aussi comme mission de prendre soin d'eux à bord de notre navire jusqu'à ce qu'ils soient débarqués dans un port sûr. Et ensuite, on a pour mission de témoigner la réalité de ce qui se passe en mer Méditerranée.
Et quel est le sauvetage qui a été le plus important pour vous ?
Je crois que, justement, ils le sont tous. C'est une bonne question parce que tous les sauvetages sont importants parce que c'est des vies. On additionne des vies humaines qu'on arrive à mettre en sécurité à bord. Il y en a un, on arrive, c'est la nuit. C'est des bateaux pneumatiques, vous voyez un peu les zodiacs, les grands zodiacs, qui sont faits normalement pour aller faire un tour autour du... Même pas autour du Frioul, quoi. C'est vraiment pas fait pour prendre la mer, c'est fait pour s'amuser vraiment près de la plage, quoi. Bah là, il est à 150 km des côtes dans la nuit et on entend depuis le pont du bateau des pleurs de bébés. Il y a 150 personnes à bord, des femmes, des enfants. Nos équipes se préparent, c'est-à-dire que depuis le bateau, on va mettre à l'eau 2 semi-rigides, c'est des gros zodiacs aussi, qui vont s'approcher de l'embarcation en détresse. et qui donc pendant la nuit vont essayer déjà d'arriver à comprendre quelle est la situation à bord pour pas arriver et déstabiliser une situation, une situation déjà précaire. Parce que si vous arrivez par exemple sur un bateau qui est déjà très fragilisé avec par exemple un boudin dégonflé et que vous arrivez du mauvais côté, tout le monde va venir vers vous. Et hop, le bateau va chavirer. Donc il faut vraiment faire très attention avant d'approcher, pour approcher des deux côtés, de passer des messages aux gens pour que les gens restent très très calmes. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir leur distribuer des gilets de sauvetage et ce qu'on appelle stabiliser la situation. Éviter que ça s'empire, que notre présence empire les choses. Et ensuite, petit à petit, on va évacuer les gens depuis leur embarcation de fortune jusqu'à nos zodiacs à nous. Et ensuite, on va les emmener jusqu'au bateau, jusqu'au gros bateau. Sur ce bateau-là, on nous indique tout de suite qu'il y a une femme avec un bébé. Et là, les marins sauveteurs l'évacuent. Et cette femme venait d'accoucher. Elle avait encore le cordon ombilical. Et donc là, les marins qui n'étaient pas du tout prévenus se retrouvent à évacuer une mère et son bébé encore accrochés, qui avaient accouché au milieu, dans un bateau. Qu'on ne peut même pas appeler un bateau au milieu de 150 personnes. Alors là, c'est des moments dont on se rappelle. Et des fois, c'est beaucoup plus catastrophique et on arrive et c'est trop tard. Il y a déjà des personnes qui se sont fait écraser dans le fond du bateau ou des personnes qui sont tombées à l'eau et nous, malheureusement, on arrive trop tard.
Si vous n'arrivez pas à trouver un pays qui accepte ces immigrants, du coup, où est-ce que vous les ramenez ?
Ça, c'est une bonne question parce qu'il y a quand même un cadre juridique. Jusqu'en 2018, la zone sur laquelle la plupart des traversées se font, elle était sous responsabilité des Italiens. C'est simple, c'est écrit dans le droit. C'est leur responsabilité de coordonner les sauvetages. Ça veut dire aussi que s'il y a un avion de ligne qui se crache à cet endroit-là, ce sera à eux de coordonner les recherches et les sauvetages des bateaux et des avions. Donc ça, toutes les mers et les océans du monde sont divisés en zones de responsabilité. Simplement, depuis 2014... il n'y a plus de bateaux sur ces zones-là. Donc nous, c'est comme ça qu'on s'est dit, c'est pas possible. Les États ont enlevé les navires de sauvetage de ces zones-là. Les gens se noient de plus en plus. Mettons un bateau là. Et c'est ce qu'on a fait. On faisait les sauvetages et le centre de coordination responsable, c'est-à-dire italien, nous coordonnait, entre guillemets, donc nous donnait les informations sur les embarcations en détresse et nous donnait un port pour débarquer, ce qui est vraiment ce que le droit prescrit. Et malheureusement, ce cadre juridique, il a été fracturé au fil des ans. D'abord parce qu'on a enlevé les moyens de sauvetage. Donc de dire vous êtes responsable, vous faites les sauvetages s'il n'y a pas de bateau, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis ensuite, ils ont transféré la responsabilité des Italiens à la Libye. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la Libye et son histoire. C'est un pays en guerre, quoi. Disons les choses simplement. Et l'Europe a poussé pour que la Libye prenne la responsabilité de toute cette zone. Ce qui fait que depuis 2018, en plus de ne pas avoir de bateau, quand il y a un navire en détresse dans cette zone-là, et que nous, on appelle les Italiens en disant « Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va où ?» Ils nous disent « Ah, c'est pas notre responsabilité. » Vous voyez ça avec les autorités libyennes, donc le centre de coordination de Tripoli, que nous n'avons jamais réussi à avoir au téléphone depuis 2018. Donc on a plus de bateaux et plus de coordination. Ça veut dire qu'on doit se débrouiller un peu tout seul. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le sauvetage, on prévient les autorités, on n'a pas de réponse. Et puis on en vient à faire ce que le droit prescrit, c'est que si le centre de coordination qui est responsable, donc la Libye ne répond pas, il faut passer au suivant. Et donc là, c'est l'Italie et Malte. Donc on va dire, on n'a pas eu de réponse des Libyens, maintenant on vient vous demander à vous. Et jusqu'à présent, à part à quelques exceptions près, dont en fin d'année dernière, quand on a dû débarquer à Toulon, on a toujours pu débarquer en Italie.
Pourquoi votre bateau il s'appelle Océan Viking ?
Parce que ce n'est pas notre bateau, on aurait peut-être choisi un autre nom. Nous, on le loue, le bateau. Et on loue le bateau avec son nom et son équipage. Donc on ne choisit pas. Après, on s'est dit sur le coup, on était là, Ocean Viking. Bon, l'Aquarius, c'était plus poétique. Mais bon, l'Ocean Viking, ça fait un peu guerrier, c'est pas mal. Bon, de toute façon, on en a fait notre partie, mais on ne l'a pas choisi. Mais aussi parce qu'il est norvégien. C'est pour ça que c'est Viking. C'est un bateau qui bat pavillon norvégien.
C'est quoi le droit maritime ?
Il est très simple. C'est un peu l'équivalent de l'obligation de porter assistance à personne en danger. Ça, vous connaissez. En mer, c'est la même chose. C'est l'obligation pour un capitaine de bateau de porter assistance à quiconque est en détresse en mer.
Si on n'arrive pas à sauver cette vie humaine, il y a la culpabilité.
Et ça, non, ça c'est très important parce qu'on a appris. Parce qu'effectivement, des fois, bah, on remonte ou on n'arrive pas à remonter d'ailleurs des personnes décédées. Et tu te dis, bah, c'est de ma faute, j'ai mal fait, on est arrivé trop tard. Et du coup, pour un peu éviter de, voilà, que ça prenne toute la place, cette culpabilité, on a développé des modules de formation très, très, très précis, que chacun sache exactement ce qu'il doit faire. Et donc, si ça ne marche pas, ce n'est pas que parce que toi, tu as suivi ce qu'il fallait faire avec ton équipe, tous ensemble. Et tu sais que ça n'était pas dans ta zone d'influence. Donc on travaille avec des concepts. Ça, tu peux impacter. Ça, tu peux influer. Ça, tu peux rien faire. Et donc, tu sais que bah, déjà en arrivant sur une scène, tu sais ce sur quoi tu vas pouvoir avoir un impact, ce sur quoi tu vas rien pouvoir faire. Et ça aide beaucoup à théoriser et à pas se dire « mais si j'avais fait ci... » Non, parce que tu sais que tu n'aurais pas fait ça. Parce qu'on apprend à faire les choses de façon très un peu militaire et très très mécanique. Donc il y a beaucoup beaucoup d'entraînement. Et effectivement, c'est assez intéressant à voir.
Louise Guillaume, directrice adjointe des opérations d'SOS Méditerranée, interrogée par les secondes du lycée Victor Hugo à Marseille. Prise de son Frédéric Quérou et Thomas Robin.
Pardon me. Excusez-moi. Yeah, I could have made a better choice. I mean, what the fuck?
I'm sorry I don't see you more. I'm sorry that the 4 minutes where you see a song could feel like a chore. Since I'm sorry I'm your kin. Sorry we ain't close as we should have been. Sorry to my old friends, stories we could have wrote if our egos didn't take the pen. Sorry to the freaks I let on. Who thought their life was gonna change cause I gave them head on. But instead I sped off, yeah I know I'm dead wrong. Sorry to the guys I had to hide. Sorry to the girls I had to lie to. Who ain't need to know if I was by the lake switching tides to. Anyway, I don't wanna talk. Sorry if you got a dig. For info I don't wanna give. So you stalk, make a vid just to talk about my private life cause you weird. Not that good this year. That's none your biz, give enough with my all. Know your place, my personal space. Y'all don't need to be a pout. I'm sorry I don't wanna link. A small talk over dinner, I don't even drink. Can't guilt trip me, I'm ice cold rolling rink. Nigga, 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 read the rule, don't assume. Niggas is cool, stay in your pocket, this is cool. Blah, 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 about trauma. You ain't special, everybody got problems, Sorry I'm not empathetic. Sorry you think I'm pathetic. Sorry I don't wanna bro down. Sorry I don't know your pronouns. I don't mean no disrespect, but damn, we just met, calm the fuck down. Oh, I'm out of touch and I'm a jerk. A bank account can never match my worth.
Never getting money, he a dick.
Sorry, Mother Earth, I'm polluting air with chemicals and dirt. These cars ain't gonna buy on Johnny Sales. What the hell you think I work for? Not to not explore and stay the same. Sorry to the fans who say I changed.
Cause I did, sorry you don't know me on a personal level to pinpoint what it is.
Sorry to my ancestors. I know I'm supposed to fight, but this ice shining brighter than a black man's plight. I'ma make it right, in the meantime, I get some advice. Why these blood diamonds getting clean?
Nigga, fuck the price, spin it then again. I can't say niggas, I'm not Superman.
But I could try, I'm sorry I'm pretentious. Sorry that the talent, knowledge, passion isn't missing. Sorry when I talk my shit and I could back it up with confidence and get you niggas tripping, man. Fuck the numbers, fuck a hook. You put me on the stage and I show you the difference. Let me see y'all hit a stage. Let me see y'all write a page. Let me see you make a decision I made. Claim that I don't know about minimum wage or Section 8. Water in the ketchup bottle to stretch when niggas ain't getting pressed by niggas hopping gay. Thinking it's normal cause you ain't supposed to make it past 18. No escape, the figure 8 cycle. When I promise this is like a diet, I'ma make a way. Yet I did, feel good, work paid off. Now we gon' celebrate. But niggas claim you arrogant when they came in late. Some moments of feeling great, so they aim. Duck, 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 or shot right back. Duck, duck, sorry, not sorry. Duck, I got two words.
Après Lillian Hallom, The Creator, c'est Tyler qui s'empare de la programmation musicale de France Inter. Sorry, not sorry.
Quand on fait par exemple des recherches sur Google ou qu'on aime un post sur Instagram, comment faire pour que sa sécurité numérique soit préservée ?
C'était la question d'Emeline adressée à Jennifer Elbaz et Karina Chatin de la CNIL qui viennent de nous rejoindre, comme toutes les semaines dans l'interclasse. Alors, cette question encore une fois centrale, Jennifer Elbaz.
Pour préserver sa sécurité, on peut certainement mettre en place pas mal de choses. Donc, avoir un mot de passe très fort et fiable, un mot de passe différent pour chaque service qu'on utilise, nettoyer ses historiques de navigation, naviguer en privé, en dire le moins possible sur soi, surtout bien réfléchir avant de publier quoi que ce soit. Et publier, c'est pas seulement publier une photo ou une vidéo, c'est aussi liker, commenter, échanger avec d'autres utilisateurs. Peut-être qu'on peut se poser toutes ces questions-là. Et puis, en fait, on peut aussi prendre conscience que la sécurité, elle est assurée sur plusieurs pans du web. C'est-à-dire que on utilise généralement la surface en fait, hein, du web avec les différents sites et réseaux habituels. Mais en fait, la plupart des données qu'on va données sur Internet, justement, eh bien, elles vont s'inscrire quelque part. Et même si on efface un certain nombre de contenus, on peut retrouver à un moment donné ces contenus-là ailleurs, dans d'autres contextes. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment de préserver, de vous préserver sur Internet. Parce qu'en fait, quand on protège ces données, on se protège. Donc, c'est se préserver sur Internet, faire attention à ce qu'on publie et naviguer en joie et en optimisme.
J'ai quand même une question, puisque durant toute la saison, on a rencontré quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves, de lycéens, de collégiens, en leur demandant est-ce que vous avez des questions à poser sur la protection de données, sur comment fonctionnent vos téléphones, l'univers numérique. Et on doit quand même bien concéder que c'est une question qui ne les préoccupe pas trop et que, en face, heureusement que Emeline était là pour justement poser bien des questions et des préoccupations, mais c'est pas quelque chose quand même qui semble concerner sa génération. C'est pas contradictoire avec l'utilisation qu'ils ont de leur téléphone.
Ce qu'on peut constater, c'est que les jeunes sont très habiles dans les usages numériques. Là où il y a un problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément la réflexion. Et donc, nous, notre mission, et je crois que c'est une responsabilité partagée hein, entre tous les acteurs, c'est de faire de l'éducation citoyenne au numérique, c'est-à-dire de leur faire comprendre les grands principes de fonctionnement du numérique pour qu'ils soient justement en capacité de mieux se protéger, de protéger leur vie privée, leurs données personnelles et du coup, eh bien, de profiter de toutes les opportunités du numérique. Parce qu'en fait, il ne faut pas non plus noircir le tableau. Le numérique permet de faire plein de choses, hein, d'accéder à la connaissance, d'échanger avec ses amis, de s'amuser en ligne. Simplement, il faut être conscient, effectivement, qu'il peut y avoir des risques. Et la meilleure des protections pour un jeune, c'est de, effectivement, être conscient de tout ça et de protéger sa vie privée et ses données personnelles.
En fait, ce qu'on constate, c'est que les jeunes n'ont pas forcément d'espace de réflexion et d'expression sur le sujet du numérique. Parce que le sujet numérique, il est utilisé, c'est une utilisation qu'on a tous les jours, mais on n'a pas de recul par rapport au sujet. On ne l'a pas forcément à la maison. Et comme on l'a très peu à l'école, bah effectivement, on se retrouve avec des jeunes qui utilisent sans avoir de recul par rapport à ce qu'ils utilisent et comment on se sert de leurs données, justement, pour les mettre dans un système qui ne leur apporte pas des informations là-dessus. On est dans un espèce de cercle vicieux, en réalité.
Un grand merci à toutes les deux de nous avoir accompagnés tout l'été. On retrouve les infos de la CNIL sur le site.
CNIL.fr/éducation.
Merci pour ce tandem irréprochable. Un grand merci à Emeline également et bonne rentrée en première. Ce sera déjà la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Merci.
Les préjugés sur les jeunes et encore plus les jeunes dans les quartiers. Les préjugés sur les quartiers aussi, les quartiers prioritaires, qu'on a souvent appelés zones sensibles. Pensez-vous que les jeunes ados qui y habitent aiment se voir résumés à la notion de bande et trafic ? À Marseille, les lycéens de Victor Hugo traquent les clichés.
Avec Chahinez, Bouchra, Emma, Samir, Youssef, Hakim et Eliès, on a décidé de travailler sur les stéréotypes autour des quartiers sensibles à Marseille. On a d'ailleurs appris qu'on n'utilisait plus ce terme.
Depuis 2014, on ne dit plus quartier sensible, mais quartier prioritaire. On appelait quartier sensible un quartier d'habitat dégradé, avec un déséquilibre habitat-emploi.
Ça veut dire que les logements construits dans ces quartiers ne correspondent pas aux attentes de ceux qui y vivent, notamment parce qu'ils sont trop loin de leur lieu de travail.
Maintenant, on utilise plutôt le terme de quartier prioritaire, mais le critère a changé. Pour qu'un quartier soit désigné comme quartier prioritaire, on se base sur un indice de pauvreté des habitants. Il faut que plus de la moitié d'entre eux gagnent moins de 11 250 euros par an.
À Marseille, il y a par exemple la Cayolle, Herbel, la Paternelle, les Igalades, la Castellane ou encore Frévalon. Souvent, quand on entend parler de ces quartiers dans les médias, à la télé, ce n'est pas pour des bonnes raisons. On parle de règlement de compte, d'insécurité, de trafic de drogue.
Alors, on a décidé d'interviewer Amine Kessassi. C'est un jeune Marseillais de 19 ans. Il vient de Frévalon, un quartier prioritaire du 13e arrondissement. Il est président de l'association Conscience. Il a fondé en 2020 pour améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers défavorisés.
Il accompagne aussi les familles de victimes de règlements de compte avec son association. Parce qu'en 2020, il a perdu son frère Brahim dans ce contexte-là lié au trafic de drogue.
Vous parlez beaucoup de l'ancien Marseille, mais vous verrez Marseille dans 10 ans comment ?
J'ai pas envie de te répondre. Moi, je te dis, à toi d'envisager ta ville demain. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu. Parce que moi, je veux bien le faire. Hein. Attention, moi, je suis prêt à porter un combat. Je suis prêt à aller à des élections. Je suis prêt à mobiliser des jeunes. Je suis prêt à faire un tas de choses pour ma ville parce que j'aime ma ville, parce que j'aime les gens qui y vivent, même si parfois ils sont très chiants. Mais j'aime les gens qui y vivent. Mais par contre, tout seul, j'arriverai à rien. C'est si toi, il y a des gens comme toi demain qui s'engagent, des jeunes comme il s'appelle comment ? Youssef, qui s'engage. S'il y a des gens comme nous qui s'engageons, moi, oui, là, je pense que notre ville, elle a des perspectives, elle a des choses à voir. Et la ville de demain, une ville idéale, ça serait une ville où bah, il y aurait un tramway dans les quartiers nord, il y aurait un tramway entre cités, un tramway qui ramène des cités jusqu'aux plages, par exemple, parce que les contrôleurs, là, ils nous grillent tous au métro Rond-Point du Prado. Bah, il faudrait qu'il y ait un tramway qui nous ramène des quartiers jusqu'à la plage directement. Il faudrait qu'il y ait ça, ce genre de moyens. Il faudrait qu'il y ait il n'y a plus d'homicides, il faut qu'on arrête de laisser des gens mourir dans les quartiers tous les jours, qu'on arrête de laisser des gens risquer leur vie tous les jours dans les quartiers et qu'on ouvre un peu plus les quartiers. Et puis c'est surtout si par exemple là maintenant on était à l'Assemblée nationale, qu'on était en capacité d'écrire des lois, moi une des premières lois que j'écrirais, c'est une interdiction aux bailleurs sociaux de construire des cités comme elles les construisent actuellement, de construire des cités où il y a 8 immeubles, 21 étages, où on met les gens les uns sur les autres, qu'on entasse la misère. Non, faites des petites résidences. Pourquoi au Prado vous faites des immeubles de 3 étages et chez nous 48 étages? Ça y est, la misère stop de l'entasser l'une sur l'autre. Donc c'est une des premières actions, je pense, qu'il faut prendre. Il y a un tas de choses à envisager. Il y a un tas de choses à faire, surtout parce que malheureusement on a pris beaucoup beaucoup de retard, mais faut le faire. Donc j'ai répondu à ta question, même si j'ai dit que je le ferais pas.
Reportage à Marseille dans les quartiers nord des lycéens de Victor Hugo avec Emma Coffi, diplômée de l'EGICAM, l'école de journalisme de Marseille.
Cumpliré mi promesa, la que te dije aquel día, la noche despeja no llovía, tus ojos robaron el agua del mar. Aunque sea un tramo largo, con tu sonrisa recargo la fuerza, las penas, a tu lado no me quedan, tu corriente todo se lo lleva. Si es libre la caída, da igual cómo empiece, es como termina, es que tú te lo quitas como yo. Pesa más el corazón que la razón.
Una promesa, nunca pa' mirar atrás. Si preguntaras, yo te la volvería a jurar como una perla. Volví al fondo del mar. Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar. Quiero comer cerezas contigo y subir todas las montañas, tirarnos desnudo en el agua y luego dormir en la playa y secarte el cabello y comerte la cara. Y aunque pase el tiempo, no olvidarme de nada.
Si es libre la caída, da igual cómo empiece, es como termina, es que tú te lo quitas como yo. Pesa más el corazón que la razón.
Una promesa, nunca pa' mirar atrás. Si preguntaras, yo te la volvería a jurar como una perla. Volví al fondo del mar. Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar. Sé que te volvería a encontrar. Sé que te volvería a encontrar. Yo quiero saber de qué se trata el mundo. Quiero hacerte una silla con mi mano. Quiero vestirme mal y de vestirme mucho. Pasear por la playa con caballo. Quiero cantar y hacerte un dibujo. Quiero tener plata, no tener nada de nada. Partir 100 botellas y reírme mucho. Y hacerlo contigo. Y hago lo que haga.
Hey.
Una promessa, Rosaria Erao Alejandro, la playlist d'Interclass sur Inter. On va refermer cette saison 8 d'Interclass avec celles et ceux importants dans ce dispositif, les enseignantes, les enseignants, la communauté éducative. Et au collège Jean Moulin de Villefranche-sur-Saône, l'équipe s'est investie pleinement, comme partout ailleurs, vraiment, dans le projet Interclass.
Moi, ma sphère médiatique, mon champ de référence, malheureusement, en dépit de moi, il est devenu totalement éloigné du leur. Et moi, ça me permet de me rendre compte de cette espèce d'abîme là, qui est entre eux et moi, et d'en parler avec eux, et de soulever des questions qu'on ne soulève pas nécessairement. On le fait, mais de manière très ponctuelle, en cours de français, voilà, sur leur propre pratique des médias, du téléphone, des réseaux sociaux, de l'information. Et c'est très intéressant, et c'est capital. Je pense que c'est une question qui est devenue absolument capitale dans le cadre scolaire.
Là, ce qui nous a vraiment intéressés, interpellés, et les élèves nous l'ont rapidement dit, c'est de pouvoir venir faire quelque chose qui leur manque, c'est-à-dire s'exprimer, partager avec nous. Quand on fait de l'éducation aux médias, on prend rapidement conscience qu'on ne vit pas tout à fait dans le même monde informationnel. C'est-à-dire que moi, qui suis professeur d'histoire-géographie, je suis un peu le prof d'actu, je me rends compte que trois quarts des informations dont je leur parle, qui datent de la veille ou de l'avant-veille, c'est pas du tout leur monde. C'est pas du tout leurs actualités, c'est pas leur urgence. Et donc forcément, ça m'interroge, ça m'interpelle. Je vais plus loin, je me dis, bon, on perd pas notre temps. Je les instruis de ces informations-là. Mais du coup, dans quel monde vivent-ils? Quelles sont leurs préoccupations? Interclass nous a permis justement de nous poser là-dessus, de faire revenir ces débats, ces discussions, et ils nous l'ont dit, hein, il nous manque du temps de débat au collège, c'est dommage qu'on puisse pas en faire davantage.
Interclass, c'est un temps où la relation n'est plus verticale, c'est-à-dire une relation qui part de l'enseignant à l'élève, de l'adulte au jeune. C'est donc horizontal et fondamental. Yannis Roder, au collège Pierre de Jeter à Saint-Denis.
Interclass est une expérience extraordinaire pour ça. C'est-à-dire que vous avez une horizontalité, vous avez tout à fait raison Eric, vous avez une horizontalité qui s'installe. On n'a plus la relation verticale dont vous venez de parler, entre l'enseignant et les élèves. On a une relation horizontale, on construit quelque chose ensemble. Et évidemment, l'enseignant et les journalistes et producteurs de France Inter sont là pour amener leur savoir, mais ils sont là plus en termes de remédiation, ouais. De médiation, de manière à ce que à aider, à épauler les élèves qui construisent eux-mêmes quelque chose. C'est tout l'intérêt de ce projet, en fait. Et vous savez, humainement, je m'en suis rendu compte dès la première saison. La première saison, c'était 2015-2016. En tant qu'enseignant, vous construisez des rapports totalement différents avec vos élèves. Vous les voyez différemment, ils vous voient différemment. Ça ne devient pas des copains, mais c'est plus que des élèves, en fait. Vous construisez un vrai lien. Et j'ai toujours, moi, des relations avec les élèves que j'avais dans un interclass en 2015-2016.
Un mot de vous, ça fait combien d'années que vous êtes à Saint-Denis?
Oula, ça va me faire mal. Ça fait 24 ans que je suis à Saint-Denis, Eric.
Et les propositions n'ont pas manqué. Vous avez de multiples casquettes et pourtant vous tenez à rester dans ce collège. Pourquoi?
Je vais vous dire, bon...
On peut parler quand même de conditions difficiles, c'est pas une vue de l'esprit. C'est...
Oui et non, parce que avec l'expérience, les conditions ne sont pas difficiles. Quand on est jeune professeur, quand je suis arrivé jeune professeur à Saint-Denis, moi je ne venais pas de Saint-Denis, hein, j'ai découvert Saint-Denis en étant nommé professeur là-bas, et je ne l'ai pas choisi. Hein. J'en ai pris plein la figure. Mais vraiment, hein, ça a duré un an ou deux, c'était très difficile. Je me disais même que ce n'est pas possible, je ne ferai pas ça toute ma vie. Puis finalement, le temps a passé et puis je suis resté. Mais en fait, en réalité, quand on est prof, je crois, quand on est prof, et notamment dans ces espaces-là, je crois qu'on est aussi un militant. Beaucoup de choses se jouent pour ces élèves au sein de l'école. Ces élèves, ils manquent de capital culturel, ils manquent de capital social. Nous, on essaye de leur apporter avec l'école le plus possible. C'est vrai que j'ai eu des propositions, j'en ai encore eu une cette année pour intégrer un cabinet ministériel. Ben, j'ai dit non. D'abord, je vais dire la vérité, j'aime mes élèves, j'aime mon métier, j'aime mes élèves, j'aime ce contact. J'aime
même
ce
s'il
qu'on
est
fait.
Difficile, même s'il y a oui, une dureté.
Bien sûr qu'il y a une dureté, mais en même temps, c'est de la joie pratiquement tous les jours. C'est de la joie, c'est aussi de la rigolade parce qu'ils sont quand même super drôles. Et tous les ans, on a tous les profs qui bossent dans ces bahuts-là ont des hommages qui sont parfois un peu maladroits, mais qui sont tellement sincères de ces élèves. Quand je crois, quand on est prof, c'est un engagement. C'est un engagement. Je pense à mon ami qui faisait Interclass avec moi, Gilles Guéger, qui a donné 30 ans de sa vie pour ces gamins de Saint-Denis. C'est un engagement. On y croit. Et on est toujours extrêmement fiers, extrêmement touchés quand on a de magnifiques réussites. On est toujours aussi extrêmement tristes, extrêmement déçus quand certains finissent mal, parce que malheureusement, ça arrive.
On pensera évidemment à Gilles en refermant cette nouvelle page Interclasse, ouais, et en vous souhaitant une belle et nouvelle 25e année, puisqu'on sera dans la 25e année,
c'est ça, Eric,
au collège Pierre de Jeter à Saint-Denis. Merci beaucoup, Yannis
Roder. Merci, Eric.